RFI, les 17h à Paris.
Le journal
en français facile. Mailleul de Charon.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans votre journal en français facile. Nous sommes le vendredi 1er novembre et à la une de l'actualité, le bilan des inondations s'est encore alourdi dans le sud-est de l'Espagne. Au moins 205 personnes sont mortes et des dizaines sont encore portées disparues. Pour les habitants, les opérations de nettoyage commencent. Reportage à suivre. Moscou et Pyongyang affichent leur unité. La Corée du Nord affirme qu'elle sera aux côtés de la Russie jusqu'à la victoire en Ukraine. Selon les États-Unis, près de 10 000 soldats nord-coréens se trouveraient en Russie. L'Union européenne se prépare à déployer ses propres satellites de communication dans l'espace. Baptisé, nommé Iris, ce projet doit servir au gouvernement européen, mais aussi aux civils. Et puis, c'est la dernière ligne droite pour les négociations à la COP16 biodiversité en Colombie. Pays riches et pays en développement doivent se mettre d'accord sur un plan financier pour protéger la planète. Et la COP17 se prépare déjà, c'est ce que nous verrons. L'armée mobilisée dans le sud-est de l'Espagne pour faire face aux conséquences dramatiques des inondations qui ont tué 205 personnes selon un dernier bilan. En tout, 1700 militaires sont déployés dans la région de Valence. Leur priorité est de rouvrir les routes et d'aider à rechercher les disparus. Ils sont encore plusieurs dizaines selon le gouvernement. Dans les communes touchées par la catastrophe, les habitants commencent les opérations de nettoyage. Écoutez le reportage de Pauline Glaise.
À l'entrée d'une rue à l'horizon bouché par un enchevêtrement de voitures, Victor Frau s'affaire dans sa maison. La marque laissée par la boue sur les murs est tellement haute qu'il faut du temps pour la repérer.
La voyez voir, ça y est.
L'eau est arrivée à 2 mètres de hauteur. Elle a arraché le cadre de la baie vitrée. Regardez où sont les vitres.
Ses filles étaient présentes quand la vague est arrivée.
La famille est montée à l'étage. Je ne sais pas ce qu'il serait arrivé sinon. Une dame âgée en face n'avait pas de premier étage. Des voisins l'ont sortie de là avec une corde. Sans ça, elle serait morte.
Des dégâts purement matériels donc, mais d'ampleur.
Hier, il y avait de l'eau ici. On a évacué cette partie et là, on enlève les meubles. On va nettoyer et attendre que l'assurance vienne. Et il faudra tout recommencer. C'est un projet qui nous a pris 6 ans et il faut tout recommencer. Mais bon, la famille va bien.
Pataugeant dans une mare debout, Victor Frau continue de vider le salon sans dessus-dessous. Une horloge fendue, style Salvador Dali, accrochée au mur, prend une autre dimension. Le temps, les semaines qui viennent, ne suivent plus leur cours normal.
Elles vont être dures, surtout au niveau psychologique, parce que ça vous submerge et il faut lutter, et c'est difficile.
Les allers-retours, piles de livres et étagères en main vers l'amas d'encombrants sur le trottoir, lui aussi physiquement. Pauline Glaise, près de Valence, RFI.
Et la province de Valence reste en alerte orange. Une alerte rouge a été émise, transmise pour la province de Huelva en Andalousie. De fortes précipitations, de fortes pluies sont attendues en cette fin de semaine. Après une nuit de frappes aériennes sur la banlieue sud de Beyrouth au Liban, le premier ministre libanais accuse Israël de refuser tout cessez-le-feu avec le Hezbollah. L'aviation israélienne a mené à l'aube très tôt ce matin au moins 10 frappes qui ont provoqué de fortes explosions et ont détruit des immeubles. L'armée israélienne affirme avoir frappé des cibles du Hezbollah. Des bombardements ont aussi visé la région de Baalbek dans l'est du Liban, faisant au moins 10 morts selon les autorités libanaises. La Corée du Nord promet son soutien à la Russie en Ukraine. Depuis de longs mois, Pyongyang est suspecté de fournir des obus en grande quantité, de nombreux obus à la Russie ainsi que des centaines de missiles. La Corée du Nord fournirait également des milliers de soldats pour combattre en Ukraine. Selon les États-Unis, près de 10 000 militaires nord-coréens seraient entrés en Russie. En visite à Moscou, la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, Choi Soon-hui, a promis d'aider la Russie jusqu'à la victoire en Ukraine.
Dès le début de l'opération militaire spéciale, chers camarades, le président des affaires d'État, Kim Jong-un, a donné des instructions pour que, sans regarder en arrière, nous soutenions et aidions invariablement et puissamment l'armée russe et le peuple russe dans leur guerre sainte. Nous ne doutons pas que sous la direction avisée du respecté président russe Vladimir Poutine, l'armée et le peuple russe remporteront certainement une grande victoire dans leur lutte sacrée pour protéger les droits souverains et les intérêts de sécurité de leur État. Et nous vous assurons une fois de plus que nous resterons toujours fermement aux côtés de nos camarades russes jusqu'au jour de la victoire.
Hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a critiqué la non-réaction de ses partenaires occidentaux. Il dénonce une escalade et une internationalisation du conflit. La Corée du Nord, qui inquiète également son voisin sud-coréen, Pyongyang, a testé hier un nouveau missile, le missile le plus avancé de son arsenal, le plus performant de sa réserve. Le sujet devrait être discuté lors de la visite de Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne à Séoul, actuellement au Japon. Josep Borrell a annoncé un nouveau pacte de sécurité et de défense entre Tokyo et l'Union européenne. L'Union européenne qui est prête à commander sa nouvelle constellation de satellites, son nom Iris. La mise en service, le début du fonctionnement est prévu en 2030. Un projet essentiel pour garantir la souveraineté européenne en termes de connectivité spatiale à haut débit. Bonjour Margot Ratézic.
Bonjour Mayol, bonjour à tous.
Margot, Bruxelles entend bien rattraper son retard sur le réseau Starlink d'Elon Musk.
Oui, Starlink apparaît aujourd'hui comme l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'Internet par satellite. Mais l'Europe n'entend pas en rester là. La Commission a finalement validé le projet malgré les réticences, les réserves de l'Allemagne. La constellation Iris garantira des liaisons Internet spatiales à des fins militaires et gouvernementales. Iris a aussi un intérêt civil, car ce nouveau réseau aidera à mettre fin aux zones blanches sur le continent. On parle ici des territoires dépourvus, privés de connexion à haut débit. Il s'agit donc de ne plus dépendre de constellations satellitaires commerciales, car ces réseaux exposent les Européens à des risques de coupures de services arbitraires injustifiés. Le coût d'Iris est estimé à 10 milliards 600 millions d'euros pour près de 300 satellites. Le projet est financé grâce à un partenariat public-privé entre Bruxelles et des opérateurs privés de télécommunications. Signature prévue le 20 décembre, le déploiement des satellites européens est annoncé pour 2030.
Merci Margot Ratézic. Et puis c'est le dernier jour de négociation de la COP16 biodiversité en Colombie. Les pays riches et ceux en développement ont jusqu'à ce soir pour se mettre d'accord sur un plan financier de sauvegarde du vivant d'ici 2030. Il doit permettre de sauver la planète et les êtres vivants, notamment par exemple de la déforestation ou de la surexploitation. Tout le monde doit renoncer à quelque chose, a prévenu la présidente colombienne. Et dans le même temps, on prépare déjà la COP17 de 2026. Bonjour Théo Renaudon.
Bonjour.
Et Théo, c'est l'Arménie qui a été choisie pour accueillir cette prochaine COP face à l'Azerbaïdjan.
Oui, les deux pays étaient en lice pour accueillir cette 17e conférence des Nations Unies sur la sauvegarde de la nature. Deux pays du Caucase ennemis jurés en conflit depuis des décennies. Les départager n'a donc pas été chose facile. Pour la première fois de l'histoire de la COP biodiversité depuis 30 ans, les États ont dû voter à bulletin secret. Résultat, 65 voix pour l'Arménie, 58 pour l'Azerbaïdjan. Épilogue donc d'une véritable lutte d'influence au sein de la COP.
Et tout ça est l'illustration de tensions qui se poursuivent entre Arménie et Azerbaïdjan.
Les deux anciennes républiques soviétiques s'affrontent à propos du Haut-Karabakh. Souvenez-vous, c'est cette enclave montagneuse où vivent une majorité d'Arméniens. Mais l'Azerbaïdjan a envahi la zone l'an dernier, poussant à l'exode 120 000 Arméniens. Depuis, la lutte s'exporte sur la scène internationale, comme à propos de cette COP 17. Une manche remportée donc par l'Arménie.
Merci Théo Renaudon.